Donc le passage que nous allons lire se trouve en Matthieu chapitre 24 versets 37 à 44. En voici la lecture. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors c'est le type de passage d'évangile qu'on évite de lire ou de trop commenter dans nos homilies du dimanche, et on s'en tire très vite par une pirouette en disant « Oui, ça a été écrit par la communauté chrétienne après la mort du Christ, ils attendaient un retour imminent du Christ, alors et puis ils étaient en pleine persécution, donc c'était pour soutenir leur courage, etc. » Ce n'est pas faux. Mais quand même, quand ces récits figurent dans les trois synoptiques, et quand dans l'évangile de Jean, Jésus dit quand même qu'il y aurait la douleur de l'enfantement, on ne peut quand même pas simplement dire que c'était pour l'époque surtout valable, pour leur donner du courage, et que en fait, ils ont mis dans la bouche du Christ des paroles qui en fait étaient présentes dans l'esprit surtout des rédacteurs. Non, ces paroles ont probablement été dites par Jésus. Alors il est possible effectivement que ça a encouragé les premiers chrétiens dans les périodes de persécution et de difficultés. Comme nous allons voir, ces paroles sont censées nous encourager, malgré les apparences. Alors effectivement, ici, c'est sûr que si on s'en prend, si on en reste à la lettre, ça peut paraître effrayant. Ben, je vous propose d'abord de commencer par la lettre qui ici rejoint l'interprétation anagogique, c'est-à-dire forcément celle centrée sur la fin des temps. Alors je dirais déjà que nous-mêmes, si nous sommes vraiment versés dans l'évangélisation, si nous souffrons de ce que le monde devient indifférent à Dieu, eh bien ceci est un encouragement. Parce que ce n'est pas parce que les choses ont l'air d'aller mal que le retour du Christ est plus loin que jamais. Bien au contraire. Et effectivement, le Christ le dit, hein, les gens mangent, boivent et sont complètement indifférents à Dieu, mais ça ne l'empêchera pas de revenir. Alors je signale que ce n'est pas marqué le retour, mais l'avènement du Fils de l'homme, parce que les deux venues du. On parle pas, on parle, oui, à juste titre, de deux venues du Christ, parce que justement, la deuxième venue du Christ n'aura rien à voir avec la première. La première, le Christ est venu dans l'humilité pour faire un travail souterrain, et la deuxième sera une venue éclatante. Et nous verrons d'ailleurs comment ces deux venues peuvent, dans notre vie quotidienne, aussi être transposées. Alors, effectivement, nous devons redresser la tête. Nous devons toujours avoir espoir que Dieu aura le dernier mot, que malgré la méchanceté et l'indifférence de notre société, de ce monde, eh bien, Dieu va venir et rétablir toutes choses. Notre Église ferait bien de s'en souvenir, plutôt que parfois de sombrer dans le pessimisme qui la conduit à être des fois bien peu spirituelle et bien parfois soit démagogique, ou bien frileuse, ou bien de ce monde avec beaucoup de moyens, disons, très mondain pour essayer de ramener des gens dans l'église. Parce que le but, c'est quand même pas de remplir les églises pour remplir les églises. Et donc, ce genre de texte est très approprié parce qu'il nous pousse à lever la tête. Et il nous révèle aussi autre chose, c'est que Dieu, dans les derniers versets, hein, Dieu ne nous dit pas quand ça se passera exactement, etc., etc. Parce que si jamais tout était tracé, enfin, tout nous était révélé, la liberté n'est pas là. Et la spontanéité et l'inconnu font partie de notre liberté. Quand nous épousons quelqu'un, quand nous avons des enfants, c'est un saut dans l'inconnu, mais c'est ça l'amour, c'est ça la vie. Et il n'y a pas de liberté sans une part d'inconnu et sans spontanéité. C'est notre Dieu est un Dieu qui respecte notre liberté, et il ne faut pas croire qu'au ciel, eh bien, ce sera un long ennui avec une vie monotone, mais ce sera, je ne peux pas le dire exactement, mais une vie en tout cas faite de beaucoup de spontanéité et de chant du cœur. Alors, ensuite, bien sûr, ce ce passage, toujours avec les yeux dans l'anagogie, eh bien, nous parle aussi de la fin de toute chose à l'échelle de notre vie, bien sûr, la mort. Et effectivement, c'est dramatique quand on y pense, parce que beaucoup de gens, notamment dans nos sociétés occidentales, depuis quelque temps, plus on est rationnel, moins on pense à la mort, et on boit, on se marie, etc. Et puis un jour, Noé va rentrer dans l'arche, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans la mort, et puis ce jour-là, eh bien, tout va être englouti, toute notre vie va être engloutie. Et ça sera quelque chose de bien douloureux pour nous-mêmes et pour nos proches, parce que là, la surprise n'est pas bonne. Nous sommes invités donc à vivre en fonction de cette idée que cette vie n'est pas définitive, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une grande source de bonheur. Parce que déjà, nos limites, nous avons beau avoir la foi, prier, nous voyons très bien que chaque jour, nous avons des limites. Et plus nous repoussons nos limites, plus nous voyons que nous en avons d'autres, y compris chez nos frères, dans l'Église, dans nos familles et dans notre société. Et on se dit que si cette vie que nous connaissons était éternelle, eh bien, elle serait bien frustrante. Et heureusement, Jésus nous rappelle que cette vie n'est pas le dernier mot de Dieu et qu'il y aura une vie bien meilleure qui arrivera en son temps. En son temps, ça veut dire pas forcément au temps que nous aurons fixé, mais au temps de Dieu. Autant que lui aura fixé. Donc, si nous vivons avec les yeux fixés sur Dieu, si nous savons que cette vie n'est pas définitive, alors déjà nous relativiserons nos échecs, nous relativiserons nos limites et celles de nos frères en pensant qu'un jour tout sera englouti, non pas pour le pire, mais dans la grâce de Dieu. Et cela n'est possible que si nous avons les yeux fixés sur Dieu. Parce que le texte dit « Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. » Nous sommes appelés, au moment de la mort, à être ceux qui ne vont pas se laisser justement, qui ne vont pas rester plantés là, bouche bée et décontenancés. Si nous voulons vraiment que la mort pour nous soit quelque chose comme un voyage, comme une bonne nouvelle, comme la femme qui est prise et l'homme qui est pris, nous devons avoir les yeux fixés, comme pour quelqu'un qui se prépare à un voyage, et il est impatient quand le train arrive, et c'est quelque chose de merveilleux. En parlant du train d'ailleurs, c'est quand même un gros paradoxe. La plupart des gens, finalement, notre société qui fait comme les jours de Noé, qui boit, etc., qui s'enivre, eh bien, c'est un peu comme ces gens qui sont dans un train, et pour eux, ils voyagent, mais le train est devenu le but. Finalement, ils ne savent même pas vers où le train les amène. Et quand on regarde, mais c'est quand même incroyable, que les gens soient si attachés à leur vie dans le train, alors qu'une vie dans un train, c'est pas extraordinaire, alors que Dieu nous propose une destination merveilleuse. C'est un peu, le train, c'est notre vie, hein, comme vous l'avez compris, sur cette terre. Eh bien, les gens s'accrochent à des petits bonheurs qui sont certes importants, il ne faut pas les négliger. Mais si notre vie se résume à une somme de petits bonheurs entrecoupés de grands malheurs ou de grandes frustrations, eh bien alors effectivement, nous ne sommes pas prêts pour ce voyage. Et nous serons comme laissés sur place quand le Fils de l'homme arrivera à nous chercher. Et alors, il y aura, beaucoup de purgatoire, beaucoup de purification à faire, beaucoup de choses qui auraient pu nous être déjà épargnées, parce que, vous savez, le purgatoire, c'est une question de logique. Hein. Si vous n'êtes pas hostile à Dieu et que vous avez envie de le voir, mais que vous ne le connaissez pas vraiment, il faut un temps d'apprivoisement, et c'est ça le purgatoire. Mais il y a aussi la très mauvaise nouvelle, qu'il y a des gens qui se seront tellement attachés à cette vie, avec un refoulement constant de l'idée de Dieu, le voyant même à force comme un ennemi, que quand ça sera le moment, eh bien, ils auront si peu envie de voir Dieu qu'ils préféreront rester dans le train éternellement, et ce train éternellement, c'est l'enfer. Alors, il y a aussi autre chose qui m'interpelle, donc, mais avant, je voudrais réinsister sur le fait que si nous voulons vraiment vivre cette vie comme un voyageur, hein, comme ces hommes et cette femme, cet homme et cette femme qui pourront être pris au champ, qui ne seront pas pris par surprise, eh bien, il faut avoir vraiment les yeux fixés sur ce que le Christ nous a offert, parce qu'il est venu pour nous offrir la vie éternelle qui commence maintenant, qui trouvera son épanouissement, son accomplissement dans la vie éternelle, ne croyez pas que c'est une façon de moins bien vivre maintenant. Bien au contraire, nous serons vraiment, vraiment, vraiment mieux équipés pour vivre dans le train. Parce que tout simplement, le train il prendra une valeur relative. S'il a une panne, s'il a ceci, cela, on sait que de toute façon on arrivera à bon port. Et c'est ça le principal. Si le train devient toute notre vie, la moindre panne dans le train, c'est une catastrophe. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et justement, revenons aux deux avènements du Christ. Vous avez cet avènement du Christ il y a 2000 ans, dans la discrétion, dans la douleur, terminé par la croix et une résurrection finalement bien discrète, dont seuls les apôtres sont témoins. Et puis, il y aura l'avènement du Christ en gloire, où là, on ne pourra pas le rater, si j'ose dire. Eh bien, c'est le travail dans le cœur de ceux pour qui nous prions, dans le cœur de cette société, dans notre propre cœur. Il y a cet avènement du Christ qui s'incarne dans le cœur des gens, dans nos cœurs, qui fait tout ce travail sous-jacent, qui est tellement discret que beaucoup de gens ne le voient pas, et que nous-mêmes, nous avons du mal à en prendre conscience et vivre en fonction de cette action de la grâce, qui est bien efficace pourtant. Et pourtant, le Christ nous prévient qu'il y aura un avènement où justement tout ça, tout ce travail de la grâce va surgir à la conscience. Mais ça ne marchera pleinement que si nous ne nous conduisons pas comme les gens à l'époque de Noé, et si nous sommes bien comme ces deux femmes ou ces deux hommes, comme celui qui va se laisser emporter, l'autre sera laissé, l'autre pris par la grâce, justement. Si nous voulons vraiment que ce travail de la grâce pour ceux pour qui nous prions, ou pour nous-mêmes, nous prenne, nous emporte dans l'avènement du Christ tout en gloire, c'est-à-dire nous transfigure, il faut vraiment être justement conscient de ce travail de la grâce, de cette action. Quand nous sommes dans la vie, et quand nous voyons nos défauts qui reviennent et reviennent, eh bien, ne nous décourageons pas, mais ayons les yeux fixés sur cette grâce qui travaille en notre cœur et continuons à prier, et que ceci nous encourage à ne pas baisser les bras, mais à redoubler d'efforts à la mesure de notre prière qui nous soutient. Et alors, eh bien, un jour nous serons pris dans cette grâce et tous nos défauts qui sont si tenaces, eh bien, vont fondre avec l'avènement du Christ, c'est-à-dire quand les temps seront venus à maturité. Et c'est pareil pour les gens pour qui nous prions. C'est exactement pareil. Si nous prions pour des gens, et nous, très souvent, on a l'impression que plus on prie, moins ça va, et que ça ne sert pas à grand-chose. Mais bien au contraire, si nous voulons que ces gens soient pris dans l'avènement du Christ, et nous-mêmes, si nous voulons que notre action, notre amour qui accompagne notre prière, notre foi, soit pris par cet avènement du Christ, par cette maturation qui va finir par arriver, eh bien nous devons justement nous souvenir que l'action du Christ est bien efficace, qu'elle existe réellement dans le cœur de ceux pour qui nous prions, et qu'à son temps, pas forcément le temps que nous voulons, puisque Jésus parle d'une surprise, c'est à l'heure où on ne s'y attend pas, en son temps, les gens vont vraiment s'ouvrir pleinement à cette action de la grâce qui travaille en leur cœur, nourrie par notre prière, cette grâce qui travaille dans le cœur de nos frères, et alors ça va surgir en pleine conscience, et justement, ils seront eux aussi pris à la mesure de notre prière. Et justement, le Fils de l'homme, Jésus, insiste sur le fait que ça sera quand on n'y pensera pas. Ce n'est pas parce que les gens pour qui nous prions semblent de plus en plus loin de Dieu ou que nos défauts semblent de plus en plus forts qu'il faut justement baisser les bras. Vous voyez, ici le Christ nous donne un indice, c'est comme la fin des temps. Ce n'est pas une montée progressive, progressivement visible, vers la victoire. C'est-à-dire, ça y est, je sens que c'est mûr. Pas forcément. Parce que, pensons par exemple à... j'ai du mal à trouver une image pour vous expliquer, mais vous voyez, quand il y a des catastrophes naturelles, on ne la sent pas forcément venir. Et pourtant, si on avait vraiment prêté attention, si on avait vraiment... Il y a des choses qui mûrissent, et puis tout d'un coup, ça craque, et puis ça se voit. Mais pour celui qui, justement, de l'extérieur, on ne voit rien jusqu'à ce que ça craque, vous voyez. Je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres exemples en tête, de choses, par exemple, est-ce que l'eau qui boue, ce n'est pas un bon exemple. Parce que l'eau qui boue, on la voit déjà frémir. Ici, c'est même pire que ça. On ne voit même des fois aucun frémissement, et tout d'un coup, ça éclate, comme un geyser. Tac! Ça vient et on ne s'y attend pas. Donc, il ne faut pas croire que le fait que les gens pour qui nous prions, les aspects de notre vie pour lesquels nous prions, ce n'est pas parce qu'il ne semble pas y avoir de progrès, disons, graduel, que ça doit être une occasion pour baisser les bras. Bien au contraire. C'est pas comme ça que ça marche, si vous voulez. Hein. Hein, pensons un petit peu à. C'est comme une espèce de croûte, on va dire. Hein. Notre conscience est comme une croûte. Il y a une frontière entre la conscience et l'inconscient qui est comme une croûte. Et tout se passe à l'intérieur. On ne voit rien jusqu'à ce que la croûte éclate. C'est exactement ça. Eh bien, il faut s'en souvenir. Autrement, nous ne serons pas pris dans la grâce. Nous serons laissés là. C'est-à-dire que c'est tragique ce qui arrive à l'homme et à la femme qui ne sont pas pris, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu travaille, quoi qu'il arrive. Et que, justement, si nous voulons être dans ce mouvement de la grâce de Dieu, dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères, pour être pris par cette grâce et donc emmener aussi nos frères et tous les aspects de notre vie qui ne sont pas à Dieu, eh bien, nous devons vraiment avoir les yeux fixés sur le Christ, non pas faire comme ces gens qui se marient et qui mangent et qui boivent. Parce que si nous faisons ça, eh bien, nous n'accompagnons pas ce travail de la grâce, et la grâce nous laisse planter là. C'est une manière de dire que, ben justement, comme nous n'avons pas accompagné le mouvement de la grâce, eh bien, elle manque son but. C'est terrible. Finalement, quand nous avons des défauts et la grâce se propose, c'est-à-dire la grâce, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, c'est une personne. Donc, Jésus travaille dans nos cœurs, il est là, et il prépare sa venue, et la grâce passe, et puis rien ne se passe, parce que, justement, nous n'avons pas accompagné ce travail par notre coopération libre d'hommes pour nous-mêmes et pour nos frères. Donc si nous voulons vraiment être dans ce mouvement de la grâce qui va faire casser la croûte entre la conscience et l'inconscience, il faut vraiment être vigilant, avoir les yeux fixés sur Jésus par la lecture de la parole, par la prière, par la charité, pour nos frères et pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est des efforts et aussi beaucoup de patience et beaucoup de fond la miséricorde de Dieu par rapport à nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, si je résume, prenons le problème à l'envers. Donc, c'est d'abord, dans notre vie quotidienne, les deux avènements du Christ, il faut savoir que ce travail mystérieux va déboucher sur un travail en gloire, à condition que nous ne rations pas le train, justement, et que nous soyons dans ce mouvement de la grâce pour nous-mêmes et nos frères. Autrement, nous serons laissés sur place, et la grâce va passer et nous raterons le train, si j'ose dire. C'est aussi par rapport à la mort, parce que c'est à l'échelle de la mort, c'est pareil. Si nous ne nous préparons pas dès cette vie, eh bien, la mort va nous laisser pétrifier. Elle ne sera pas ce mouvement, ce passage vers une vie meilleure. Et c'est pareil pour la fin des temps. Hein, il ne faut pas oublier que, quoi qu'il se passe, la grâce travaille et que nous pouvons participer à ce mouvement de victoire du Christ par notre prière, par notre fidélité, et que grâce à ces fervents que nous sommes, eh bien, ce monde, une bonne partie de ce monde va pouvoir rentrer dans ce mouvement et ne pas être laissé pour compte. Et n'oublions pas donc de prier pour notre Église, pour qu'elle soit de ce mouvement de la grâce. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu ce texte sous une forme de prière. Alors, il va y avoir aussi des temps de silence, et ne croyez pas que l'enregistrement s'arrête. Ce sont des blancs qui ont été créés après coup, l'enregistrement ne s'arrêtera que quand je dirai fin d'enregistrement. Donc pendant ces temps de prière, je laisserai des silences où vous pourrez justement prier aussi et vous approprier ce texte d'une manière priante et méditative. Pour ceci, je vous propose d'en appeler à l'Esprit Saint. Je te prie Seigneur, je te prie Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, ouvre mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur, aide-nous à être vigilants par un regard d'espérance, sur ta venue, eh bien, dans nos vies, dans la vie de ceux pour qui nous prions. Oui, que ce regard d'espérance soit aussi pour toute notre société, quels que soient les événements extérieurs. Apprends-nous que tu sais ce que tu fais, et nous voulons participer à ce mouvement de victoire et emporter le maximum de gens avec nous dans ce mouvement qui est ton deuxième avènement. Oui, apprends-nous, Seigneur, que ton premier avènement a été discret, il avait l'air d'être une défaite, c'est ce qu'ont pensé d'ailleurs les disciples tout au début après ta mort, et que tu travailles dans la discrétion, mais c'est que pour mieux venir en gloire après. Eh bien, apprends-nous que c'est la même chose dans nos vies, que ce sera la même chose pour ce monde, et que la mort, c'est justement ce signe de victoire. Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Ah Seigneur, aide-nous à être de cet homme et de cette femme qui sont pris par le mouvement de la grâce, parce que tout simplement, ils ont appris à surfer dessus. Apprends-nous vraiment, Seigneur, que tu travailles dans les cœurs, que tu travailles aussi dans notre cœur, que tu travailles dans notre vie, dans cette vie, dans ce monde. Et alors vraiment, si nous avons ce regard, nous accompagnerons cette grâce, et pour nous, tout sera passage. Oui, Seigneur, protège-nous de ce regard figé qui s'arrête aux apparences. Et nous voyons un échec apparent dans la vie de ceux pour qui nous prions, dans nos défauts. Nous voyons vraiment que de l'échec dans cette société. Aide-nous à ne pas avoir ce regard figé, mais ce regard levé vers le haut, vers l'espérance. Et ainsi, vraiment, nous accompagnerons ta grâce et nous serons comme des porteurs de ta grâce, des icônes, au lieu d'être des freins. Fais de nous, Seigneur, des porteurs de ta grâce. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Ô Seigneur, être prêt, c'est savoir que malgré les apparences, il faut continuer à aimer et à prier. Finalement, être prêt, c'est savoir vivre au-delà des apparences. Des apparences trompeuses de l'échec chez ceux pour qui nous prions, chez nous-mêmes, malgré nos prières et nos efforts, dans cette société. Apprends-nous toujours à nous relever grâce à la prière et à continuer à aimer malgré tout et à ne pas perdre espoir en toi. Voilà comment nous pourrons veiller. Et voilà vraiment comment nous serons prêts. Et je voudrais te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie, et la vie, c'est la spontanéité, c'est le mouvement, et c'est bien que nous ne sachions pas tout à l'avance. parce qu'autrement, où serait notre liberté? Tu nous veux libres. Et Seigneur, eh bien, aide-nous à utiliser cette liberté pour justement être des êtres qui accompagnent ton mouvement de grâce et que l'inconnu pour nous se transforme en éternelle espérance pour cette vie future, mais aussi cette espérance pour ceux pour qui nous prions et pour nous-mêmes, qui nous fera vraiment voir la victoire au-delà des apparences. Amen. Je propose cette petite prière pour assimiler la lecture et la méditation que nous avons eues ensemble. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit. Oui, vraiment, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré. Oui, vraiment, en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Alors j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute. Fin de l'enregistrement.